Franco.
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Españoles, Franco ha muerto. Espagnol, Franco est mort. Cette annonce est faite au matin du 20 novembre 1975 par le président du gouvernement espagnol, Carlos Arias Navarro. Cela faisait 35 jours que le caudillo était en agonie sombre, agonie. Francisco Franco, le chef de la dernière dictature d'Europe, rend donc son dernier souffle et la presse européenne va saluer la fin d'un régime asthénique qui reposait dans la grisaille sur une poignée d'hommes bornés en uniforme de militaires ou de prêtres. Tout au contraire, le journal franquiste Arriba rend hommage aux soldats légendaires, vainqueurs de la guerre civile qui a mis fin à la Deuxième République entre 1936 et 1939, artisans de la libéralisation de l'économie espagnole, restaurateurs de la monarchie, dont il aura été officiellement le régent. Pendant 39 ans, le caudillo aura dirigé l'Espagne d'une main de fer. Sa carrière inouïe militairement et politiquement, carrière assez disproportionnée sans aucun doute, était née au Maroc. Et c'est ça que nous allons essayer de revivre et de comprendre. Je vous donne le contexte. En 1898, je dis bien 1898, à toute fin du 19e siècle, l'Espagne perd Cuba. Vous savez que c'est cette guerre contre les États-Unis et l'empire colonial espagnol qui était né des grandes découvertes, n'est-ce pas, et de 1492, cet empire colonial est liquidé. Avec Cuba s'évanouit le mythe de l'empire hérité de Charles Quint. En Espagne, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. L'Espagne était première puissance coloniale en 1800, puis première puissance du monde. Et elle n'est plus, en 1898, 100 ans plus tard, qu'une ancienne métropole. Et on s'interroge sur l'identité nationale, sur la définition de la nation espagnole, sur ce qu'elle doit être et ce qu'elle va devenir. Et là, il y a deux tendances qui s'affrontent forcément. D'un côté, vous avez les modernistes qui veulent européaniser l'Espagne, la faire entrer dans ce concert des nations d'Europe qui, à l'époque, en 1898, est extrêmement bouillonnant. Et puis de l'autre, vous avez les conservateurs espagnols qui, eux, veulent restaurer la grandeur passée de la couronne. Et pour eux, le salut se trouve plutôt de l'autre côté du détroit de Gibraltar, là où l'Espagne possède des enclaves depuis la fin du XVe siècle, à Ceuta et Melilla. À cette époque, le Maroc est en train de devenir une espèce d'obsession pour les militaires espagnols qui fantasment sur l'imaginaire d'un Eldorado marocain. Seulement là, il va falloir se dépêcher, parce que l'Espagne n'est pas la seule à lorgner du côté de son voisin du Sud, évidemment. Les appétits d'autres puissances coloniales européennes se sont fait jour, et vous savez que notamment au Maroc s'affrontent à cette époque-là précisément la France et l'Allemagne. Il va y avoir des différends de plus en plus forts entre la France et l'Allemagne sur le Maroc. En 1912, l'Espagne va réussir à établir un protectorat, alors pas sur le Maroc en entier, puisque c'est la France qui s'est arrogé le reste du pays, mais sur la partie nord du pays, sur ce que l'on appelle le Rif. Et de leur côté, les habitants autochtones du Rif, les Rifins, ne voient pas l'affaire du même œil. En 1909, à proximité de Melilla, ils vont se révolter, ils vont infliger de très lourdes pertes à l'armée espagnole, des pertes qui sont telles qu'est bientôt rendu nécessaire un renouvellement des cadres et l'appel à de jeunes officiers. Eh bien, parmi ces jeunes officiers, un lieutenant en garnison à l'époque à Ferrol et qui s'appelle Francisco Franco.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au moment de ses premières altercations dans le Rif, Franco vient de sortir de l'académie de Tolède. Il est donc affecté en Galice, hein, dans la pointe nord-ouest de l'Espagne, à Ferrol. Et là, il s'ennuie. C'est vrai qu'il porte l'uniforme avec fierté et qu'il s'acquitte de son service avec beaucoup de conscience. Mais il se désespère en vérité de commander si peu d'hommes. Il se désespère aussi, disons-le, du montant de sa solde qu'il juge dérisoire. Et pour lui, c'est très important, cette affaire-là. Bref, Franco a la chance d'avoir des frais personnels réduits, parce que la vérité, c'est qu'il possède la maison familiale, hein, la maison que son père a quittée depuis 3 ans pour aller vivre à Madrid avec une autre femme. Et ça, il l'a vécu comme un affront à sa mère, Franco. Sa mère, c'est Maria, très religieuse, à laquelle il s'identifie beaucoup. C'est d'elle qu'il a appris la modération, la dévotion, le respect total au catholicisme, tout le contraire de son père, qui est réputé anticlérical, libéral, hostile à la guerre au Maroc, bref. Tout oppose le jeune Franco à son père, en vérité, mais il a au moins récupéré la maison familiale. Sa vie de garnison à Ferrol, disons-le, Franco la déteste. Il faut voir qui est ce jeune homme qui fait 1m66 de haut, qui a constamment tendance à vouloir se hausser du col, comme ça. Jeune soldat qui rêve de gloire, qui n'a pas du tout l'intention de se satisfaire de cette vie où chaque jour est le même. Et pour lui, comme pour d'autres de ses camarades de promotion, le Maroc, c'est le rêve. Le rêve quotidien, c'est un moyen de se distinguer. Il veut son épreuve du feu, Franco, et il va l'obtenir, puisqu'à la fin de l'année 1911, la carence d'officiers subalternes devient telle au Maroc que les jeunes promus, désormais, peuvent être affectés. Il suffit de le demander. D'ailleurs, l'année suivante, le colonel Villalba va lui donner une réponse positive. Il arrive donc le 17 février 1912 à Melilla. Il est affecté au régiment d'Afrique numéro 8. Il reçoit son baptême du feu tout de suite, dès le mois suivant. Il va multiplier d'ailleurs les actions militaires. Il sera bientôt capitaine du régiment des réguliers indigènes. C'est la Légion étrangère espagnole. Il a 22 ans seulement. Alors, disons les choses, les risques sont réels sur place. En 30 mois, sur 46 officiers du régiment, il y en a 35 qui vont être soit tués, soit grièvement blessés. Et pendant 3 ans, Franco va, si j'ose dire, passer à travers les gouttes. D'ailleurs, il va se forger la réputation de l'homme auquel rien n'arrive jamais, même dans les moments les plus terribles. Il est l'invulnérable d'une certaine manière, ce qui va lui permettre d'être populaire dans tous ses régiments. C'est ce petit homme maigre, à la voix fluette, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il n'est jamais blessé. Si, quand même, en 1916... entre parenthèses, on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas tellement le sujet sur place. Il est blessé, il est sérieusement blessé, Franco, donc il n'est plus l'invulnérable, mais en attendant, il a été nommé commandant. À 24 ans, il est le plus jeune commandant de l'armée espagnole. Il va pouvoir être renvoyé en garnison dans la péninsule, tout auréolé de ses exploits rifains. Il est satisfait de son aventure marocaine, Franco. On peut dire que pour lui, le RIF a rempli toutes ses attentes. Quelques mesures du concerto pour piano et orchestre numéro 1 d'Albéniz, l'orchestre de chambre de Lausanne, était sous la direction de Jesús López Cobos.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, pendant ce temps-là, dans les montagnes du Rif, les combats continuent, bien sûr. Au début des années 20, on commence à parler d'une union des tribus rifaines contre le colonisateur espagnol. Et derrière ce rêve rifain, il y a un homme que vous connaissez, c'est Mohamed Ben Abdelkrim. Abdelkrim, c'est celui qui va essayer de de créer une indépendance marocaine, une lutte anticoloniale. Il est issu de la tribu des Beni Ouriaghel, qui est une des plus puissantes, des plus belliqueuses du Rif. Cet Abdelkrim a commencé dans un premier temps à travailler avec les autorités espagnoles. Il a même été rédacteur du journal Telegrama del Rif. Ça, c'était en 1906. Et puis après, il est devenu secrétaire du bureau des affaires indigènes. Et puis Cadi en chef en 1914. C'est un lettré parfaitement intégré à l'administration coloniale espagnole, cet Abdelkrim. Sauf qu'en 1919, il est retourné chez lui et il a commencé à soulever sa tribu contre l'Espagne. Et évidemment, il y a eu toute une répression espagnole qui n'a fait que multiplier les ralliements au chef rifain. Et pendant ce temps, là-haut à l'école de tir de Valdemoro, où il accomplit un stage de perfectionnement, le commandant Franco va rencontrer, et ça va être très important pour lui, il va rencontrer le lieutenant-colonel Millán Astray, avec lequel il sympathise. Les deux hommes ont en commun une croyance fondamentale dans la supériorité de la société militaire sur la société civile. Ça, c'est tout un programme, si je puis dire. Et à ce moment-là, Astray travaille sur la création d'une légion étrangère selon le modèle français. Il a même fait un voyage en Algérie pour observer l'unité célèbre de cette légion étrangère créée en 1831 par Louis-Philippe, vous savez, au moment de la conquête de l'Algérie. En 1920, son projet à lui est accepté par le gouvernement espagnol, et c'est comme ça qu'Astray va proposer à son jeune ami, là, ce commandant du 1er bataillon, il va lui proposer de diriger la nouvelle légion espagnole. Et Franco, qui vient de se fiancer avec Carmen Polo Martinez Valdés, c'est la femme qui partagera sa vie, Franco voit dans cette proposition l'occasion de relancer sa carrière et peut-être enfin d'accomplir les exploits dont il rêve depuis toujours. En octobre 1920, le voilà donc qui remet le pied au Maroc, avec 200 volontaires de cette nouvelle légion. Et pour ces légionnaires, Astray a composé un credo qui est inspiré des traditions des tercios espagnols du XVIe siècle, autant vous dire les bataillons qui terrorisaient l'Europe à l'époque. Hein, on était dans la grande époque de la puissance du siècle d'or espagnol, et c'est vrai que les tercios étaient extraordinaires. Astray s'est également inspiré des ordonnances militaires de Charles III. Et puis, il s'est inspiré aussi du code moral des samouraïs japonais. Vous savez ce qu'on appelle le Bushido. Vous voyez un peu l'ambiance dans le bataillon, hein, dans cette bandera que dirige maintenant Franco, qui impose donc à ses hommes une discipline de fer, ce qui ne veut pas dire qu'il se ménage personnellement d'ailleurs. Le jeune commandant sait se faire respecter et craindre, il sait se faire aimer aussi parce qu'il connaît chacun de ses soldats, il s'efforce d'être le plus juste. La vérité, c'est que sur le terrain, Franco fait preuve d'une grande cruauté. Il a vu des soldats espagnols mutilés. Eh bien, il va permettre à ses hommes d'en faire autant sur les Marocains qui tombent entre leurs mains. Et ce sont, à partir de là, des pillages, des incendies, des viols qui ne se comptent plus. Franco ne montre aucune pitié pour les rifains. Il fait tuer les prisonniers. Il fait même décapiter les morts. C'est un moyen de terroriser les musulmans en leur interdisant l'accès au paradis d'Allah. Bref, c'est un homme cruel. L'écrivain Arturo Barea raconte qu'il suffit parfois d'un regard de Franco pour que le légionnaire le plus endurci devienne livide. Vous voyez un peu l'ambiance. En juillet 21, le gouvernement espagnol envoie Franco à Melilla, puisque le 21 du même mois, Abdelkrim a écrasé l'armée espagnole à Anual. Et dans une retraite calamiteuse qui a été ordonnée par le général espagnol qui dirigeait ses troupes, Silvestre, qui va d'ailleurs se suicider, 14 000 soldats espagnols ont été tués, blessés, portés disparus, presque la totalité des troupes du contingent. Et sur le terrain, les rifains récupèrent tout le matériel abandonné par les Espagnols, ce qui fait que maintenant ils ont non seulement des fusils, mais des canons, toutes sortes de munitions, des médicaments. Humiliation totale pour l'Espagne, où on parle du désastre d'Anual. Et Franco lui-même raconte, c'est lui que je cite, « L'armée est en déroute, la place est ouverte, la ville est folle et prise de panique, la douleur voile nos yeux, mais il faut rire, chanter, les chansons jaillissent, montent les vivas à l'Espagne, le peuple applaudit en folie frénétique notre arrivée. » Les légionnaires chantent et dans le peuple renaît l'espérance morte. Les balcons se remplissent, les applaudissements crépitent et les femmes sanglotent en embrassant nos légionnaires. De son côté, Abdelkrim a proclamé la République du Rif. Sa réputation de sa renommée, devrais-je dire, devient internationale. Il va décrocher la une du Times en 1925 et la proclamation de sa république remet en cause toute l'autorité du sultan marocain. Autant dire que ça met en danger le protectorat français qui est plus au sud, du côté de Rabat, Fès, etc. L'expérience républicaine d'Abdelkrim, c'est une subversion de l'autorité coloniale. Et si les Rifains l'ont fait, on se dit que d'autres pourraient le faire, à commencer par tous les Marocains du Sud. Et le chef Rifain, qui est grisé par ses succès, va commettre l'erreur de lancer des raids dans la zone française. Ah non, ça c'en est trop pour la France, qui va forger contre Abdelkrim une alliance avec l'Espagne. Les guerriers, c'est le deuxième mouvement de L'Oriental d'Alberto Rinastera. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de Juan Romenia.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est en 1923 que Franco revient donc au Maroc. Il est promu lieutenant-colonel. C'est maintenant l'homme fort de la guerre du Rif. Les positions espagnoles sont très fragiles, vous l'avez compris. Elles sont réduites en fait aux enclaves qui sont sur la côte. Et à Madrid, le régime parlementaire a été renversé par Primo de Rivera. C'est ce que je vous racontais il y a quelque temps. C'est cette dictature de Rivera. Et pour Franco, qui soutient évidemment le dictateur, le temps des demi-mesures est révolu. Maintenant, il faut mener la guerre totale à Abdelkrim. Il est partisan d'une opération de très grande envergure, Franco. D'ailleurs, il va exposer ses plans au roi Alphonse XIII en personne. Et ses positions sont donc légitimées par l'entrée en guerre de la France dans cette guerre du Rif. En 1925, dans le protectorat français, Lyautey a été remplacé par le maréchal Pétain, qui est le héros de Verdun à l'époque, bien entendu. Et contrairement à Lyautey, Pétain est un partisan de l'alliance avec Madrid. Et il va rencontrer Franco au Maroc. Et les deux hommes s'apprécient. D'ailleurs, plus tard, Pétain sera ambassadeur à Madrid quand Franco sera devenu le dictateur qu'on connaît. Le plan défendu par Franco est donc retenu. Débarquement de grande ampleur dans la baie d'Aliouthemas, où Franco est chargé d'établir la tête de pont. Le 8 septembre 25, 13 000 hommes se lancent au combat et pendant ce temps, au sud, les forces françaises contournent les Rifains, les enveloppent. Les Rifains ne peuvent rien faire contre la puissance de feu des Espagnols, des Français, puissance croisée, vous imaginez. D'ailleurs, ni les Espagnols, ni les Français n'hésitent à utiliser le gaz moutarde qui avait été si terriblement expérimenté dans les tranchées de la Flandre une décennie plus tôt. À peine un mois plus tard, Agdir, qui est le cœur de la rébellion rifaine, est repris. Abdelkrim a beau poursuivre la résistance, ça va encore durer des mois, hein, l'affaire est close. Le chef rifain sera obligé de se rendre aux Français en mai 1926 et vous savez qu'on l'exilera dans l'île de la Réunion. Et Franco, me direz-vous, eh bien la même année 1926, il est élevé au grade de général de brigade, il est fait par la France officier de la Légion d'honneur. Ce sont des années heureuses pour lui, hein. Il a 33 ans, c'est le plus jeune général d'Europe, il est gentilhomme de la Chambre du Roi et directeur de l'Académie militaire. Il a épousé cette belle jeune femme issue d'un meilleur milieu que lui. Il est d'ailleurs le père d'une petite Maria. À la naissance de l'enfant, j'ai cru devenir fou de joie, dira-t-il plus tard. Bref, Franco va connaître à ce moment-là des années heureuses. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont connu à l'époque disent qu'il était plutôt extraverti, souriant, pas du tout l'image qu'on en aura par la suite. Mais, disons-le, hein, déjà à cette époque-là, le poids des morts ne semble pas trop agiter sa conscience.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Franco rentre donc à Madrid. Il peut prendre à l'époque le temps de se faire un réseau, hein, de rencontrer du beau monde, les notables de la politique, de l'économie, un certain nombre d'autres officiers qu'il apprécie beaucoup. Il faut comprendre ça parce que ça va expliquer ce qui se passera plus tard pendant la guerre civile, bien sûr. Et c'est là qu'il va commencer la rédaction de ses réflexions politiques. Il élabore tout un projet de développement du Maroc espagnol avec la création de fermes modèles, le choix par l'Espagne des officiers des affaires indigènes, le désarmement total des tribus berbères avec des contrôles permanents, etc. Bref, la création de ce qui est un modèle de colonisation, ça va être l'une des œuvres de jeunesse de Franco, cette histoire-là. Et le RIF, on peut le dire, a été pour lui l'occasion de tester ses aptitudes à diriger des soldats et à mener des hommes d'une façon plus générale. Ça lui a aussi, disons-le, et vous l'aurez compris, ça lui a permis d'aiguiser ses appétits politiques. Franco est proche de la dictature de Primo de Rivera, il est auréolé de la gloire acquise dans le RIF, il devient le chef des officiers africanistes qui acceptent difficilement l'établissement de la Seconde République en 1931 et encore moins la victoire du Front Populaire Espagnol en 1936. Et vous savez que c'est Franco qui va donc organiser ce putsch contre le gouvernement républicain le 17 juillet 1936. C'est pas un hasard si c'est depuis sa fameuse garnison espagnole de Melilla au Maroc que Franco lancera son coup d'État. Le mouvement militaire qu'il qualifiera lui-même de glorieux mouvement a été préparé de longue date. Franco débarquera avec ses troupes africaines et ses légionnaires en Andalousie et ce sera le début de cette guerre d'Espagne qui, après 3 ans et plus d'un million de victimes, ce qu'on oublie parfois, aboutira à cette dictature de 39 ans jusqu'à la mort de Franco en 1975.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Gaspard Le Marinier d'avoir fait revivre cette page méconnue et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, comment allez-vous ?
Vous êtes mis en sportif là ce matin.
C'est-à-dire que non, j'ai retiré tout ce qui me couvrait pour me protéger. Comme disait Michel Serrault dans la pièce Le Vison Voyageur avec Jean Poiret, adaptée par Jean-Loup Dabadi, il disait « Il fait un petit peu sec aujourd'hui mais humide, voyez-vous » Bien, alors cet après-midi, pas besoin d'arroser les jardins. Au 12 avenue du Château de la Malmaison, ah oui, Malmaison, parce que vous allez nous raconter Joséphine à la Malmaison
oui,
à 14h.
Avec sa grande serre tropicale qui va nous redonner un peu de chaleur et de soleil dans ces temps pleins de grisailles.
Oui, mais ça fera du bien en tous les cas. On va encore se promener avec Franck à 14h et puis nous aurons le plaisir de vous retrouver dès demain matin, 8h-5. Je le rappelle, j'insiste pour cette rentrée avec ce point du jour. Et puis à 9h pour Franck Ferrand raconte. Alors je ne donne pas le sujet, ce sera à vous de le découvrir dès demain matin, présenté par David Abiker. Pardon. Bonne journée mon cher
Bonne
Franck.
Journée à vous.
Vous êtes couvert, vous avez un parapluie, vous avez tout ce qu'il faut.
Oui, je me suis trempé un peu. Mais
les bodines, oui, bon, ça écoutez, c'est moins grave. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Marseille.
Oh là là,
c'est une catastrophe. Bien, bonne journée.